font toujours ce qui est interdit.
C'est ça.
Merci.
Je vous en prie.
Et les étoiles en plus.
Alors nous revoilà. Donc, pour reprendre sur les évasions, pour vous donner une idée un peu du nombre d'évasions qui pouvait y avoir à ce moment-là, sur la colonie de la Couronne, là où on est entre 20 et 60 enfants sur une année à peu près, ça varie, hein, ça varie selon les années.
Pas pendant les années, oui, pendant les 11 ans d'ouverture, ouais, un truc comme ça.
On relève en moyenne une vingtaine d'évasions par an. Ce qui fait que ouais, c'est assez énorme. La plupart des enfants, même s'évadent plusieurs fois, hein, dès qu'ils ont la possibilité de se faire la malle, ils le font. Faut vraiment s'imaginer que ces enfants, ils comprennent pas très bien ce qu'ils font là. Ils ont quasiment zéro contact avec leur famille. Les conditions sont affreuses. Donc voilà, clairement les évasions sont monnaie courante, quoi. Alors à ce moment-là, il y a des comités de surveillance qui sont censés avoir été mis en place au moment de la loi qui sort là en 1850. Mais alors clairement, soit ils n'existent pas, ces comités de surveillance, soit ils existent, mais alors comme de toute façon c'est que des notables qui font partie de ces comités, bon bah on ferme les yeux, on ne dit trop rien, donc voilà. Enfin,
c'est assez souvent, en plus, il y a certains bagnes qui sont dirigés par des religieux du coin, oui, ou quoi que ce soit, des gens qui ont très très bonne réputation, donc jamais on va mettre le nez dans leurs affaires. Et...
C'est ça. Ça arrange tout le monde, donc il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc, après, il y a quand même des émeutes, des mutineries, hein, comme on parlait de celle de Belle-Île tout à l'heure, qui petit à petit trouvent un écho, quand même, soit dans la presse, soit chez les gens. Il y a même eu des manifs, hein, après l'événement de Belle-Île. Donc voilà, il y a quand même des trucs qui ressortent. Il y a des scandales qui éclatent. Alors petit à petit, il y a des colonies qui vont fermer. Alors est-ce que ces colonies ferment à cause des scandales ? Est-ce que c'est le prétexte pour les fermer ? C'est pas facile de le dire aujourd'hui, quoi.
Oui, ça c'est un peu douteux parce que du coup on n'a pas encore parlé du bagne de la colonie de Roiffé. Du coup, Roiffé était ouvert avant la colonie de la Couronne, en fait. C'est la colonie qui se situe à côté de Loudun. Donc Roiffé, elle a été ouverte en 1860 avec à la base les jeunes enfants des détenus de Fontevraud qui étaient placés là-bas parce que bon, leurs parents étaient déjà... Enfin, je sais pas, je pense que ça devait être une sorte de mesure préventive. Du coup, avec les enfants des détenus de Fontevraud, plus des jeunes délinquants qui sont venus, avec en moyenne, on est sur 300-450 détenus. Voilà, donc cette colonie est aussi appelée Saint-Hilaire et voilà. Ça, on le donne en comparaison parce que la colonie de la Couronne finit par fermer en 1911 suite à un scandale qui s'appelle l'affaire Beneteau, parce qu'un enfant était envoyé au cachot 2 semaines et...
Ouais. Albert Beneteau, du coup.
Albert Beneteau, ouais. Voilà. Et il y faisait tellement froid qu'il a eu les pieds gelés, qu'il a été amputé, et ça a fait scandale, ça a participé à la fermeture de cette colonie. Mmh. À côté de ça, bon, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais vraiment, il y a des taux de mortalité dans ces endroits qui sont incroyables, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, parce qu'ils n'ont qu'un seul vêtement, du coup,
qui travaillent comme des dingues, de toute façon, ils ne seront pas soignés quand ils tombent malades.
Voilà, du coup, vraiment, il y a des taux de mortalité incroyables, donc là, c'est presque un peu rigolo que cet enfant qui s'en sort quand même vivant procède à la fermeture de cet établissement. En comparaison, du coup, on a le bagne de Roiffé, qui était une colonie beaucoup plus grande, qui manifestement, je pense, marchait mieux, était plus organisée, ce genre de choses, parce que sur la Couronne, on a l'impression que, dans ce qui ressort des archives, que le directeur est pas trop, et des fois pas trop trop au point, quoi. Du coup, on a la Roiffé qui est beaucoup plus organisée, qui a été surnommée Saint-Hilaire-la-Mort. Du coup, je suppose qu'on a une bonne idée de ce qui s'y passe. Et cette colonie, en fait, ne va fermer que dans les années 1970, après avoir été modifiée par des réformes successives. Mais en fait, le scandale n'a jamais été suffisant, en tout cas, pour justifier sa fermeture. Oui, bon, du coup, schématiquement, c'est quand même un petit peu tentant de dire que les colonies vont fermer parce que l'intérêt financier qu'il y a à garder ces gamins... a évolué aussi. Grosso modo, la plupart des colonies, des bagnes agricoles ferment après la Première Guerre mondiale. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit qu'il y a le développement des tracteurs. Bon, on ne va pas faire de raccourcis, mais ça économise quand même un petit peu de main-d'œuvre qui est plus facile à gérer quand elle est mise ailleurs, quoi.
Ouais. Alors, donc effectivement, il y a une évolution de ce qui se passe en termes de répression pour mineurs. Alors, on va pas tout énumérer, mais dans l'ordre d'idée, quand même en 1945, il y a un peu un tournant qui est réalisé, où il y a une idée de refaire passer l'éducatif avant le répressif. Donc, c'est un tournant assez important. Après, il va y avoir tout un tas de successions, d'établissements, on change les noms... On change un peu la manière de faire. Et on arrive un peu à ce qui existe aujourd'hui. Donc, et qui date de 2002. Donc, en 2002, il y a une loi qui sort et qui va entraîner la création de deux types d'établissements. Alors, il y a les établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont tout bêtement des prisons pour mineurs. Et il va aussi y avoir, donc c'est ce qui va nous intéresser un peu plus là, c'est les centres éducatifs fermés. Alors, les centres éducatifs fermés, c'est pas l'administration pénitentiaire qui les gère. Hein. C'est pas considéré comme des lieux de détention, mais comme des lieux de résidence. Des lieux de résidence, mais avec des murs, des barbelés et des moyens de vidéosurveillance. Donc, on est bien sur du fermé, hein, clairement. Alors, ces centres éducatifs fermés, il en existe des publics et des privés, majoritairement des privés. Hein, et il y a un peu cette idée... qui est pas sans rappeler tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, où en fait il y a une idée de procéder à une rupture du milieu familial, du milieu d'origine du jeune, et avec éventuellement un éloignement, pourquoi pas à la campagne. Donc il y a. On revient.
Il y a des petits parallèles un peu amusants où apparemment ils ont un peu du mal à trouver des éducateurs pour ce genre d'endroit. Mmh. Du coup, souvent c'est des anciens militaires en reconversion qui font des surveillances, qui étaient le même profil que les gardiens des bagnes. Bon, après, c'est pas du tout les mêmes échelles ou quoi que ce soit. Du coup, c'est difficile de faire un vrai parallèle. Mais en tout cas, il y a quand même ce genre de similitude qui nous fait dire que dans l'idée des colonies pénitentiaires, en fait, on est encore sur du... Enfin, il y a encore des choses qui restent dans comment on peut appréhender ces jeunes délinquants.
Oui, et puis là, il y a vraiment cette idée où on va dire que ces enfants, ces jeunes, on les envoie dans ces centres éducatifs fermés pour les reprendre en main, pour les instruire, pour aussi, il y a beaucoup ce truc de, à travers l'apprentissage et l'éducation, voilà, remettre sur la bonne voie et que clairement, en fait, ce qui se passe dans ces centres, c'est que c'est le répressif qui prend toujours le pas, en fait, déjà parce que... Il y a beaucoup de... Par exemple, on constate qu'il y a aussi beaucoup de fugues, beaucoup d'évasions. Hein. Enfin, on est toujours sur les mêmes trucs. Il y a régulièrement des scandales qui éclatent, des trucs qui ne devraient pas du tout avoir lieu d'être et qui existent quand même, de l'enfermement dans les chambres, des privations de nourriture, des privations de sortie. Clairement, on est sur du répressif. Pour l'anecdote, je pense à des jeunes là, qui sont envoyés, donc qui sont en centre éducatif fermé, mais ça se passe mal. Alors du coup, on va les envoyer dans ce qu'on appelle un séjour de rupture. Donc on les envoie, alors là, je crois que cette fois-là, on les envoie dans une maison de l'Office national des forêts. Et l'idée, clairement, c'est on les y envoie pour qu'ils réalisent des travaux comme du débroussaillage. Hein. Donc en termes d'apprentissage, on n'est pas sur les travaux top, quoi. Et il y a vraiment cette idée... en fait, on les envoie là-bas pour qu'ils éprouvent un peu des conditions de vie un peu plus rudes pour leur apprendre la vie, quoi. Donc, il y a quand même un peu des trucs qui reviennent. Et donc, je le disais tout à l'heure, on est sur des colonies... lapsus révélateur, des centres éducatifs qui sont la plupart du temps privés. Du coup, avec des directeurs d'établissements qui sont pas formés. Et alors, du coup, pareil, hein, pas mal de scandales... où il y a un directeur là, qui, par exemple, qui va se prendre plusieurs années de prison pour avoir agressé et violé certains de ses détenus. Enfin, voilà, c'est assez récurrent. Alors, la presse s'en fait plus ou moins l'écho, mais en cherchant un peu, on se rend compte qu'effectivement, ça se passe comme ça, quoi. Donc voilà, des centres éducatifs fermés où l'idée, en fait, finalement, c'est encore une fois de faire rentrer les enfants déviants dans le rang, quoi.
Et au départ, en fait, on a eu l'idée de cette émission parce qu'il y a un parallèle assez amusant où, en fait, la Couronne a demandé... la commune de la Couronne a...
a demandé. Ouais, oui. elle a. Il y a le maire qui s'appelle Monsieur Doré, je crois, qui a fait une demande, pour avoir une prison sur sa commune, parce que en ce moment, en fait, l'État propose un appel d'offres, en fait, d'ici 2022. Ils veulent reconstruire tout un tas de prisons. Pour répondre notamment au fait qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons, c'est une manière d'y répondre. Et du coup, voilà, le maire a été très vivement intéressé par cette proposition.
Oui, ça a été. Je crois que le projet de prison a été. Enfin, l'État n'a pas gardé cette idée-là. Non. Ça a été abandonné cet automne-là.
Ouais.
Et ce qui est assez amusant, c'est que. On peut citer la grande phrase du maire de Vivonne qui a encouragé son homologue de la couronne par un « n'hésite pas, fonce ».
C'est ça.
Voilà.
Après, alors toujours pour rester dans la comparaison, il y a aussi un centre de déradicalisation qui a, je crois que c'était entre 2016 et 2017, et qui se retrouve, c'était à 15 km,
15 km de Roiffé.
Oui. Donc voilà, c'est assez drôle.
Surtout, ce qui est amusant, c'est que ce centre... de déradicalisation à peu près les mêmes logiques. En fait, c'est des pédagogues qui se disent « Ah tiens, sur le principe du volontariat, des jeunes vont se mettre dans ce centre, vont pareil avec la mise à l'écart, mise à la campagne, et puis ce genre de choses. » Et avec un centre qui ferme au bout, concrètement, au bout de 6 mois, il n'y avait plus personne dedans. Donc voilà, ce genre d'idée...
Bon, après, on y reviendra sans doute dans d'autres émissions, mais je voulais faire un point sur le travail. On a beaucoup parlé de l'exploitation de ces enfants par le travail. Alors, à l'heure actuelle, c'est évidemment, les choses évoluent, c'est moins le cas. Mais par contre, c'est intéressant de rappeler que dans les prisons pour adultes, c'est encore vachement le cas, parce que il y a des détenus qui ont la possibilité de travailler. Évidemment, ils n'ont pas accès au code du travail, au syndicat, tout ça. Ils ont des salaires de misère et c'est un peu le bâton et la carotte, quoi. C'est-à-dire que si le détenu il obtient un travail, si ça se passe bien, si ça se passe mal, on lui retire. Hein. Évidemment, on est très très loin des CDI ou tout ce genre de considérations. Et ouais. Après, juste pour. Peut-être on va terminer l'émission par rapport.
On peut conclure sur. Voilà. En tout cas, pour conclure sur les bagnes de mineurs, on peut voir que. Après, ça s'est fait très progressivement, signe, je pense qu'il y avait quand même un intérêt derrière, mais on voit quand même que, en tout cas en termes d'emprisonnement, on est sur un échec, sur l'échec d'un système qui est complètement contradictoire, puisqu'on veut protéger, le motif est de la protection des enfants. En réalité, surtout, on s'en protège en les éloignant et en les enfermant et en leur appliquant des peines qui sont complètement injustes par rapport aux peines appliquées aux adultes ou même appliquées aux autres enfants qui sont considérés comme responsables. Sous un prétexte disciplinaire et de rééducation et ce genre de choses. L'argument philanthropique qui vient à la création de ces bagnes, en fait, est aussitôt anéanti parce que les intérêts économiques derrière sont, et les profits à faire sont beaucoup trop grands. Tout le monde est au courant du paysan du coin qui a besoin de main-d'œuvre et des primes de l'État qui viennent récompenser ce paysan à l'État qui profite d'avoir des lieux, en fait, pour empêcher ses enfants de circuler librement. Voilà, du coup,
pour conclure, peut-être, on rappelait tout à l'heure la couronne, le maire était fortement intéressé par l'idée de nouvelle prison. Et du coup, il y a le maire de Vivonne, donc Vivonne, il y a une prison à Vivonne, qui est juste à côté de Poitiers. Et du coup, si tu veux peut-être, voilà. Xenia, tu veux nous lire l'extrait
On va finir par un article de 7 à Poitiers, qui est paru le 14 novembre 2017 et qui s'appelle « En prison, on bosse aussi ». À chaque bloc, sa chaîne de production quasi-industrialisée. Certains assemblent des compteurs électriques, d'autres des poubelles d'avions de ligne, d'autres encore des cartons d'emballage pour une célèbre marque de champagne. Ce lundi matin, dans l'atelier du centre pénitentiaire de Vivonne, ils sont plusieurs dizaines à travailler sous étroite surveillance. Je crois beaucoup au travail des détenus. L'atelier est un lieu très structurant pour eux. Face au député Sacha Houlier, en visite parlementaire, la directrice de la prison Catherine Lagier parle sans langue de bois. Pour les entreprises, c'est une main-d'œuvre pas chère, rémunérée 1,23€ de l'heure, sans contrat de travail. Pour les détenus, c'est une opportunité de se rendre utile, de gagner un peu d'argent, et surtout de quitter la cellule pendant quelques heures. Certains diront que la peine des uns fait l'affaire des autres. C'est un fait. La prison génère de nombreuses retombées économiques, à commencer par cette mise à disposition de main-d'œuvre à bas coût.
Au-delà, la rémunération des détenus et les dons que leur font leurs familles par mandat génèrent un véritable business, au cœur du centre pénitentiaire. Avec leur argent, les prisonniers peuvent s'acheter de la nourriture, du tabac, des cosmétiques, une télévision, une chaîne IFI, reprend Catherine Lagier. Aucune monnaie ne circule pour autant d'entre les murs. Les agents pénitentiaires gèrent les comptes des détenus. Hors les murs, les premiers bénéficiaires de ce business sont les commerçants alentour. Le buraliste de la Grand-Rue à Vivonne écoule ainsi une centaine de cartouches de tabac tous les 15 jours. Le cahier des charges de la prison impose aux employés de s'approvisionner au plus près, explique Julien Descartes. Pour nous, c'est tout bénef. Dans le reste de la commune, rares sont les commerçants à se plaindre de la proximité de la prison. Les familles des détenus s'arrêtent souvent déjeuner ici, lâche un restaurateur du bourg. Depuis son ouverture en 2010, le centre pénitentiaire a pas mal dopé l'activité du coin. Un propos confirmé par le maire de Vivonne, Maurice Ramblière, qui a vu sa population augmenter de plus de 25% en 7 ans. Les 600 détenus sont comptabilisés comme des habitants de Vivonne. Une partie des 261 employés se sont entre autres installés sur la commune avec leur famille. Je ne vais pas dire bravo, mais la prison participe à notre développement économique. Grâce à ce gain de population, Vivonne a moins subi que d'autres communes les baisses de dotation de l'État. En conséquence, la taxe foncière augmente moins vite qu'ailleurs, comme en atteste l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers sur la période 2011-2016. Plus 16,93% à Vivonne, plus 19,28% en moyenne dans le reste du département. Si les retombées économiques globales sont difficilement chiffrables, dit Maurice Ramblière, il n'en demeure pas moins que l'installation de cette entreprise comme une autre profite à tous. En bibliographie, on peut vous citer notamment le livre de Marie Rouanet, Les enfants du bagne, oui. Qui est très très bien là-dessus. Elle a fait un gros travail d'archivage, surtout sur les bagnes dans l'Aveyron.
Oui, voilà. Mais on peut aussi citer, alors, je ne sais pas si ça se fait trop de citer dans une émission de radio, une autre émission de radio, mais on, le fait quand même. Du coup, sur France Inter, La Marche de l'Histoire, donc une émission sur les bagnes pour enfants, avec voilà. Notamment un invité du coin, hein, Frédéric Chauveau.
Voilà. L'émission s'appelle Les Maisons de Correction 1830-1945. On peut aussi citer pour le bagne de la Couronne une publication dans les cahiers de la Société des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers de Paul Lévy qui s'appelle La colonie pénitentiaire de la Couronne.
La Loire a quitté la salise. Maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un troupeau de chiens qu'on mène crever dans une île. Mais alors apparaît la pelle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des...